Alors, donc, on continue. Je ne sais pas si vous l'avez tous, toutes, la lettre du pape. Je suis, globalement, je suis le déroulement. Donc, vous retrouverez approximativement ce que j'essaie de vous dire. Donc, voilà, après une introduction, après avoir parlé de la joie, hein, puisque c'est le sujet quand même, la joie de l'évangile. Après la dernière fois avoir évoqué quelques défis du monde actuel, donc c'est la partie aujourd'hui des tentations, il y en a sept. Tentations des agents pastoraux. Alors c'est vous, vos tentations. Alors, il y a d'abord une introduction avant de le pape introduise cette partie des tentations des agents pastoraux en disant quelques petites choses. Ce qu'il dit d'abord, c'est que, en premier lieu, en toute justice, je dois dire que l'apport de l'Église dans le monde actuel est immense. Alors, notre douleur et notre honte pour les péchés de certains des membres de l'Église, et aussi pour les nôtres, ne doivent pas faire oublier tous les chrétiens qui donnent leur vie par amour. Alors, ils aident beaucoup de personnes à se soigner ou à mourir en paix dans des hôpitaux précaires, accompagnent les personnes devenues esclaves de différentes dépendances dans les lieux les plus pauvres de la terre, se dépensent dans l'éducation des enfants et des jeunes, prennent soin des personnes âgées abandonnées de tous, cherchent à communiquer des valeurs dans des milieux hostiles, se dévouent autrement de différentes manières qui montrent l'amour immense pour l'humanité que le Dieu fait homme nous inspire. Alors, ça me semble important quand même de reprendre ça au début. Bon, il y a des tentations, on est tenté, mais il ne faut pas non plus se cacher dans un trou de souris en disant on est nul, etc. C'est pas... On peut être fier d'être catholique. Alors, c'était peut-être une chose qui m'avait marqué, en tout cas au JMJ à Paris en 97. Bon, ça avait donné l'air... Alors, c'était en plein mois d'août, il y avait moins de Parisiens, mais du coup, la proportion de jeunes qui étaient heureux, sympathiques, etc., ça changeait complètement l'ambiance du métro, etc. Ça n'avait rien à voir avec le Paris habituel. Et les gens, ça les avait beaucoup interpellés. Et alors, du coup, on pouvait être tout à fait fiers d'être catholiques. Et du coup, après, il y en a qui n'avaient plus peur de sortir leur prix en église, dans le métro. Voilà, parce que, voilà, on n'était plus honteux. Et je crois que c'est certainement une des choses que le pape Jean-Paul II nous a appris, c'est à ne pas avoir peur et pas avoir honte d'être catholique et de le dire. Parce que souvent, avec tout ce que les médias souvent disent, alors au bout d'un moment, on commence à être un peu complexé d'être catholique. Mais non. Alors le pape dit non. Alors c'est clair qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout belles, hein, la pédophilie et autre chose. Là, il ne faut pas non plus le cacher. Et puis, c'est terrible. Mais il ne faut, faut pas non plus faire un complexe d'infériorité. Alors, donc, être fier d'être catholique. Alors, je voulais reprendre, parce que qu'est-ce qui fait que quelquefois, on a un peu de mal à dire ce qu'on fait de bien. Alors, il y a des limites, vous verrez. Hein, mais, alors, Jésus nous dit, par exemple, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 4, on lit ça le jour de le mercredi des cendres. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Bon, je continue pas. On connaît bien ça, mais alors de ce fait-là, on n'ose quelquefois plus dire le bien qu'on fait. Alors, mais si on prend tout l'évangile et la parole de Dieu, alors ça s'éclaire mutuellement, donc... C'est toujours important de ne pas prendre un texte et puis de l'absolutiser. Alors, si on prend quelques versets avant, c'est au chapitre 5 de Saint Matthieu, versets 14 à 16. C'est une tonalité toute différente. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alors vous me direz, mais alors il faut se montrer ou il ne faut pas se montrer? Mais la question c'est, ils rendront gloire à votre Père. Et dans l'autre cas, c'est dans le premier cas, ce que Jésus reproche, c'est ceux qui veulent s'attirer la gloire pour eux. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, pas de problème. Donc, voilà, donc on peut être fier d'être catholique et il ne faut pas avoir peur de faire de la publicité pour ce qu'on fait de bien, pas pour nous mettre en valeur. Si c'est ça, ben, voilà, on aura déjà touché notre récompense et du coup, ça sera raté pour le ciel. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, il ne faut pas non plus avoir peur et se cacher. Alors, parmi les sujets de fierté qu'énonce le pape, finalement, il reprend un certain nombre d'œuvres de miséricorde. Alors, comme on est dans l'année de la miséricorde, je ne vous en parle pas beaucoup, mais alors je fais une petite digression. Connaissez-vous les œuvres de miséricorde? Alors, il y en a combien? 7 ou 14? 2 fois 7, il y en a. Ça fait 14. Parce qu'il y a les œuvres de miséricorde corporelle, 7, et les œuvres de miséricorde spirituelle, 7 aussi. Donc 7 plus 7 égale 14. Voilà, alors le pape, vous avez peut-être lu la bulle, ce qu'on appelle la bulle d'indiction pour le jubilé de l'année de la miséricorde. Donc le pape les énumère. Alors je vais peut-être vous les énumérer un petit peu. Ça ne peut pas nous faire de mal pour mieux les vivre. Alors, donc, il y a d'abord des œuvres de miséricorde corporelle. Alors, globalement, approximativement, elles sont tirées de Saint Matthieu au chapitre 25. Hein, vous vous rappelez, c'est la scène du jugement dernier. Le Père dira à certains à droite, d'autres à gauche, certains dans le feu éternel, d'autres dans le ciel. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. Donc, il y en a 7, on en retient habituellement 7. Alors, donner à manger à ceux qui ont faim, première, donner à boire à ceux qui ont soif, alors ça, c'est tous les besoins matériels. Troisième, c'est accueillir l'étranger, alors, une certaine actualité aussi dans cette œuvre de miséricorde. Quatrièmement, vêtir ceux qui sont nus. Alors, quelquefois, vous donnez peut-être vos habits, mais voilà. Cinquièmement, visiter les malades. Un peu comme le bon samaritain qui s'est occupé du malade. Et puis, voilà, personne ne lui demandait, mais il a fait un détour. Et puis, voilà. Et puis après, du coup, il a donné des sous à l'aubergiste pour qu'il en prenne bien soin. Donc voilà, ça c'est cinquième œuvre de miséricorde. Sixième, visiter les prisonniers. Alors je ne sais pas si vous avez beaucoup été visité dans la prison. Alors ça peut être une belle chose. Ça peut être aussi d'aider des prisonniers à se réinsérer. Ce n'est pas toujours très simple, mais bon, voilà. Septièmement, c'est enterrer les morts. Alors, c'est ce qu'a fait Nicodème, Joseph d'Arimathie et Nicodème, quand ils ont descendu Jésus de la croix. Mais aussi, c'est pourquoi ça? C'est parce qu'on considère que le corps humain, pour les chrétiens, le corps humain a une dignité. Il a été la demeure du Saint-Esprit, donc on y fait attention. Donc ça, c'est les 7 œuvres de miséricorde corporelle. Vous connaissez les spirituels? Surtout, il y a la sixième œuvre de miséricorde spirituelle. Souvent, elle fait sourire. Mais en même temps, bon, Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Première œuvre de miséricorde spirituelle, c'est instruire l'ignorant. Et alors que quand on sait beaucoup de choses et qu'on n'en fait pas profiter les autres, c'est un peu dommage qu'on peut faire. Tandis qu'il y a des gens qui savent pas des choses tout à fait élémentaires, alors c'est aussi une œuvre de miséricorde que de les aider à y voir clair. Deuxième œuvre spirituelle, conseiller ceux qui en ont besoin. Troisième œuvre, exhorter les pécheurs. Ça, c'est pas toujours très très facile. J'en reparlerai cet après-midi, je crois, sur la correction fraternelle. Je ne sais pas si vous pratiquez beaucoup cette chose-là, la correction fraternelle. Alors, avec douceur et humilité, avec charité et humilité. Mais c'est très important. Hein, c'est une belle œuvre de miséricorde. C'est beaucoup plus facile de parler sur le dos des autres que d'aller leur dire en face. Voilà. Mais j'en parlerai un peu plus cet après-midi. Quatrième, pardonner les offenses. Bon. Alors oui, là, il y a donc surmonter la vengeance, le ressentiment. Bon, c'est pas toujours très simple, mais bon. Cinquièmement, consoler celui qui est triste. Quelquefois, quand il y a quelqu'un de malheureux, on ne sait pas très bien comment s'y prendre, du coup, on s'abstient. Mais voilà, bon, on fait ce qu'on peut, hein, mais d'être proche déjà. Sixièmement, alors c'est quoi le sixième heure ? Supporter patiemment les défauts des autres. Ou alors que le pape, comment il dit ça ? Ah oui, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. C'est une autre façon de le dire. C'est un peu différent, mais bon. Supporter patiemment les défauts des autres ou les personnes ennuyeuses. La patience, c'est quand même pas rien. Vous savez quelle est l'oraison du 26e dimanche du temps ordinaire ? Vous la connaissez par cœur. Non, mais sans blague. Alors, elle commence au moins comme ça. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance. C'est quoi la preuve suprême de la puissance de Dieu ? Lorsque tu patientes et prends pitié. C'est ça la preuve suprême de la puissance de Dieu, c'est d'avoir de la patience. Ça peut nous aider. Alors, sans te lasser, accorde-nous ta grâce, puis je puis après. Mais j'aime beaucoup cette oraison, parce que on imagine des tas de choses sur la puissance de Dieu, mais c'est d'abord sa patience envers nous en particulier. Mais voilà. Alors du coup, cette œuvre de miséricorde, c'est quand même pas mal. Supporter patiemment les défauts des autres ou les personnes ennuyeuses. Et septièmement, prier pour les vivants et les morts. Donc c'est plus l'intercession à l'égard des autres. Ça peut être donc les vivants. Pape François insiste beaucoup pour qu'on prie pour les chrétiens persécutés, là, pour qu'ils aient la force. Et qui ont prié aussi pour les âmes du purgatoire. Ils ont besoin de nous. Voilà. Donc ça, le petit... à propos d'excursus sur les œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles. Et alors, à la suite de ça, le pape dit une petite phrase que je trouve intéressante. Ce témoignage de tous ceux qui font du bien me fait beaucoup de bien et me soutient dans mon aspiration personnelle à dépasser l'égoïsme pour me donner davantage. Et c'est vrai que on a besoin du témoignage des autres et c'est important de se nourrir du témoignage des autres. Je ne sais pas si vous lisez des vies de saints de temps en temps, mais c'est une manière de se nourrir du témoignage des autres, de ceux qui sont vraiment donnés. Ça nous encourage, ça nous stimule. Alors on a besoin de l'exemple des autres. Alors, il y a des saints qui sont déjà au ciel, mais il y en a qui sont encore sur terre, ou des gens dont on admire. C'est bien, ça nous aide à avancer. Alors, c'est pour ça aussi, C'est bien de faire un peu de publicité pour ce qui se fait de bien, parce que ça encourage aussi à aller dans ce sens-là. Et puis, voilà. Alors, toujours dans cette introduction aux œuvres, aux tentations des agents pastoraux, le pape est assez nuancé. Il dit, voilà, ces tentations viennent du fait aussi qu'il y a une certaine... pression culturelle, il y a le regard des autres qui nous influence quand même assez fortement. On n'a peut-être pas assez de personnalité pour suivre son chemin et on est un peu dépendant du regard des autres. Et alors, du coup, ça entraîne un certain nombre de tentations qu'on va évoquer. Alors, par exemple, il dit... alors, tout est quand même en nuance, hein, comme on disait que c'était bien de faire de la publicité, mais ce n'est pas de la publicité pour soi, c'est de la publicité pour le bon Dieu. Après, il dit c'est très bien de faire des retraites, mais après il nuancera. Qu'est-ce que tu recherches quand tu fais ta retraite? Si c'est ton bien-être spirituel uniquement, et un peu, de façon un peu égoïste, il vaut mieux que tu ne fasses pas de retraite, si c'est que ça, si ça se limite à ça. Si. Alors, toujours, donc c'est quand même assez nuancé ce que peut dire le pape, parce que je ne vais pas dire que c'est nul de faire des retraites spirituelles, sinon on met la clé sous le paillasson ici, mais en même temps, il faut les relativiser en quelque sorte, ou les recentrer sur ce qui est le plus essentiel. Voilà. Alors tout ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, il faut quand même que j'entre dans le vif du sujet. La première tentation, alors voilà le titre qui est mis, c'est « Oui au défi d'une spiritualité missionnaire ». Alors, je vous donne, vous le retrouverez facilement dans c'est le numéro 78 à 80, ça. Alors, le pape... là-dedans, dit que quelquefois, on a un peu les ailes coupées. Dans ce zèle missionnaire, on a un peu les ailes coupées. Pourquoi on a les ailes coupées? Parce que peut-être qu'on s'occupe un peu trop de soi. C'est quand même beaucoup dans l'air du temps de s'occuper de soi-même, de se faire du bien à soi-même. Ça, c'est bon côté. Alors, je peux le développer un petit peu. Donc, ça, c'est bon côté. Alors, vous connaissez aussi le proverbe charité bien ordonnée, mais ça ne veut pas dire que ça finit par soi-même aussi. Je pense que c'est bien, il faut s'aimer, le bon Dieu nous appelle à nous aimer, c'est pas toujours très simple de s'aimer déjà, mais c'est pas pour s'arrêter là. Si c'est aimer les autres comme soi-même, alors bien sûr s'aimer, mais pour aimer les autres. Et pas attendre d'être parfaitement bien pour commencer à s'occuper des autres. Sinon, c'est comme le prêtre qui attendrait d'être parfait pour commencer à prêcher. Ben, voilà, qui reste couché, de toute façon, il ne le sera jamais. Donc, à ce moment-là, il est condamné à rester muet jusqu'à la fin de ses jours. Hein, mais c'est pareil pour faire du bien autour de nous. Il ne faut pas attendre d'être bien et puis d'être... on est toujours critiquable parce qu'on a tous nos petits côtés. Et voilà. Donc... encore une fois, de s'occuper de soi, c'est bien, mais ça a des limites. Le pape, dans cet ordre d'idées, insiste pour dire que la vie spirituelle n'est pas un refuge. Il l'a dit, par exemple, à des cloîtrés. Votre vocation n'est pas un refuge, mais c'est d'aller sur le champ de bataille, de lutter et de frapper à la porte du cœur du Seigneur pour cette ville. Et ce peuple qui est le vôtre. Voilà. Donc, ce n'est pas se trouver un refuge et puis du monde mauvais. Et puis voilà. Non. Même au cloîtré, il dit non. Si vous vous renfermez sur vous-même, bien sûr, vous avez une clôture, tout ça, il ne remet pas ça en cause. Mais votre vie, elle est perdue si vous intercédez pas pour les gens. Si votre vie n'est pas vraiment donnée, mais si c'est plus un refuge un peu égoïste, alors c'est pas la peine. Autant, voilà. Alors, ceci dit, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une estime de soi. C'est important de s'occuper de soi, mais pas n'importe comment. Pas de façon maladive, on pourrait dire. Un jour, j'avais vu un livre, c'était à propos de l'humilité. Et alors, il disait que l'humilité était impossible si on n'avait pas une estime de soi. Et je trouvais que c'était très intéressant. L'humilité, ce n'est pas se déprécier. Ça, ce n'est pas l'humilité. C'est une contrefaçon de l'humilité. L'humilité, c'est s'apprécier à sa juste valeur, mais avoir une estime de soi. Et à partir de là, on peut accepter humblement les remarques qu'on nous fait et tout ça. Mais de toute façon, les remarques qu'on nous fait, elles vont nous détruire complètement si on ne s'aime pas du tout. Ça nous détruira et puis point, il n'y aura plus personne. Hein, l'humilité, ce n'est pas se déprécier, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est se voir pas plus grand qu'on est et puis pas s'accorder plus d'importance qu'il ne faut. Alors, l'amour de soi n'est pas quelque chose de mauvais. C'est, encore une fois, c'est bon de s'aimer soi-même. Et le bon Dieu nous le demande. Après, la question, c'est d'avoir une forme de narcissisme ou alors une forme d'excès d'amour de soi ou qui fait qu'on est égoïste, on ne sait pas compatir aux autres. Et parce qu'on est trop occupé de soi-même, du coup, on ne peut plus s'occuper des autres. Alors ça, c'est mauvais, c'est un amour de soi excessif, on pourrait dire. Ou alors, un amour de soi en défaut. Du coup, on a tout le temps besoin d'être rassuré, on est très dépendant du regard des autres, etc., parce qu'on ne peut pas entendre la moindre critique. Mais parce qu'on ne s'aime pas assez. Voilà. Donc, encore une fois, le pape ne nous dit pas de ne pas s'aimer soi-même, mais que ça soit une juste estime de soi, mais pas excessive et pas non plus insuffisante. Quelqu'un prenait l'exemple d'une plante. Il y en a une là. C'est pas une fausse. Hein. L'avantage des fausses, il n'y a pas besoin de les arroser. Mais une plante, il faut lui mettre suffisamment d'eau, mais pas trop. Si vous ne mettez pas assez d'eau, ben, voilà. Dans la prochaine fois, vous verrez si c'est une vraie ou pas, si on l'arrose pas. Et puis, mais si on en met trop, ben, elle pourrit et puis ça ne va pas. Mais l'amour de soi, c'est un peu ça. On a besoin d'avoir de pouvoir nourrir l'estime de soi-même, mais pas plus qu'il ne faut. Oui, alors c'est vrai que Marie, justement, n'est pas quelqu'un de rabougri et voilà, de pusillanime. Je crois que je peux sauter quelques petites choses. Alors après, le pape évoque la question du complexe d'infériorité qui nous coupe les ailes. Hein, dans les choses qui nous coupent les ailes pour la mission, il dit, bon, déjà c'est quand on s'occupe trop de soi-même et du coup on s'occupe tellement de soi que bon, on n'est pas très. Les autres ne nous intéressent pas beaucoup. Mais deuxième chose aussi qui peut nous couper les ailes de l'évangélisation, c'est d'avoir un complexe d'infériorité, de douter un peu. La dernière fois, ou l'avant-dernière fois, je ne sais plus très bien, le pape nous disait que c'était important de fêter nos succès dans l'évangélisation. Ou dans. Voilà, quand on fait quelque chose pour Dieu, ben de voir que ça a marché, ben c'est pas de la vanité que de se réjouir de ce qui a. Donc il a insisté pour le fait de fêter, savoir fêter, se réjouir. Et je pense que ça va dans ce sens-là. C'est pas de la fausse humilité. Mais encore une fois, bien sûr, c'est pas se fêter soi-même, c'est fêter se réjouir de ce que Dieu a pu faire, c'est quand même un peu différent. C'est pas s'auto-encenser, mais c'est encenser le bon Dieu. Et donc c'est important de ne pas avoir honte de. Alors, c'est quelquefois d'avoir des personnages qui sont admirés par les autres. C'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être plus facile puisque le pape François est quand même assez apprécié par beaucoup de gens. Donc, de ce fait-là, c'est peut-être plus facile de se déclarer catholique qu'à certains moments où les médias sont très cruels contre. Bon, il voit quelquefois de façon un peu superficielle, parce que je pense que le pape Benoît XVI était un saint, mais différent du pape François, donc c'est pas du tout le même. Mais alors Jésus nous a dit, mais quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et le, donc, comme Marie, justement, c'est qui n'est pas du tout pusillanime, hein, ça c'est une déformation de l'humilité, mais qui est magnanime, magnificat, hein, mais justement, elle n'a pas peur de faire des grandes choses pour Dieu, comme pour Thérèse de l'Enfant Jésus. Quelquefois, on pense, bon, c'est des petites choses, la petite Thérèse, etc., mais en même temps, elle avait quand même une grande audace. C'était pas quelqu'un de rabougri, la petite Thérèse, même si on l'appelle toujours comme ça. C'est pas, elle était humble, mais pas du tout pusillanime. C'était pas quelqu'un de recroquevillé, d'inconsistant. Alors, parmi les trois choses que j'ai retenues, justement, qui nous coupent les ailes pour évangéliser, c'est d'abord trop s'occuper de soi. C'est aussi cette honte ou ce doute sur donc on se réfugie dans un trou de souris parce qu'on n'est plus très sûr que finalement la voie de Jésus c'est la bonne. Et puis troisième élément, c'est une sorte de relativisme pratique, d'agir comme si Dieu n'existait pas. Il y en a qui parlent de ça comme de l'apathie spirituelle, dans l'apathéisme. C'est finalement vivre et se comporter comme si Dieu n'existait pas. C'est une sorte d'athéisme pratique. Alors du coup, voilà, on fait tout, mais on ne s'appuie pas vraiment sur Dieu. Parce que peut-être, au bout du compte, peut-être qu'on ne croit pas vraiment, vraiment en lui. Et, alors c'est un peu cette tiédeur qui est dénoncé par Jésus dans l'Apocalypse, tu n'es ni froid ni bouillant, je voudrais que tu sois froid ou bouillant, mais tu es tiède. Alors, donc, ça, c'était la première tentation. La première tentation, c'est le titre qui est mis, c'est « Oui au défi d'une spiritualité missionnaire ». Donc, la première tentation, groupe de tentation, c'est justement d'être démobilisé, du coup, pas partir en mission, pas témoigner de Jésus. Hein, on est toujours dans le fil conducteur, hein, la joie de l'évangile, l'évangélisation. Hein, c'est toujours dans. Alors, deuxième tentation, c'est non à l'ascédie égoïste. Alors, je vous lis. Hein. C'est numéro 81 à 83. Je ne lis pas tout, hein, parce que sinon... Quand nous avons davantage besoin d'un dynamisme missionnaire qui apporte sel et lumière au monde, beaucoup de laïcs craignent que quelqu'un les invite à réaliser une tâche apostolique et cherchent à fuir tout engagement qui pourrait leur ôter leur temps libre. Alors, je saute des petites choses. Mais quelque chose de semblable arrive avec les prêtres. Hein, donc, ils ne s'attaquent pas simplement aux laïcs. Mais... Donc, les prêtres qui se préoccupent avec obsession de leur temps personnel. Fréquemment, cela est dû au fait que les personnes éprouvent le besoin impérieux de préserver leurs espaces d'autonomie, comme si un engagement d'évangélisation était un venin dangereux au lieu d'être une réponse joyeuse à l'amour de Dieu qui nous convoque à la mission et nous rend complets et féconds. Voilà. Alors, ou alors, il parle encore. Le problème n'est pas toujours l'excès d'activité, mais ce sont surtout les activités mal vécues, sans les motivations appropriées, sans une spiritualité qui imprègne l'action et la rend désirable. De là découle que les devoirs fatiguent démesurément et parfois nous tombons malades. je trouve que c'est une assez bonne description que fait le pape, parce que le problème, ce n'est pas forcément d'avoir des activités, mais ce n'est pas forcément avoir les motivations derrière ces activités. Alors, la cinquième partie de la lettre, alors là, il développera un peu plus, c'est évangélisateur avec l'esprit, le numéro 259 et suivant. Et alors là, il réfléchit davantage sur les motivations juste un exemple qui me passe à l'esprit. C'est peut-être un peu délicat, mais bon. On fait des week-ends famille depuis pas mal d'années ici. Mais l'expérience que j'avais faite, c'est que souvent, ceux qui étaient le plus fatigués à la fin d'un week-end famille, ce n'étaient pas les frères qui étaient impliqués et qui s'étaient fatigués avec les enfants ou les adultes. Pas de la même manière, mais... Mais c'était ceux qui n'étaient pas très impliqués dans le week-end parce qu'ils accueillaient ça plutôt comme un poids qui leur était imposé de les presque. Je crois que c'est vrai, je prends cet exemple pour donner quelque chose d'un peu concret, vous n'en ferez pas de publicité, je coupe. mais je crois que c'est vrai, que souvent quand on est plus impliqué, plus motivé par quelque chose, on n'a pas la même fatigue. Alors là, on a une fatigue physique et puis on dort bien la nuit qui suit le week-end, mais ce n'est pas la même fatigue que quand on vit les choses un peu comme si elles nous étaient imposées de l'extérieur, mais que notre cœur n'y est pas vraiment. À ce moment-là, ça nous épuise, alors qu'on n'a rien fait. Quelquefois, on n'a rien fait, juste ça nous épuise de voir les choses qui se passent sous nos yeux. Et je crois que ça fait partie des choses qui peuvent nous arriver à tous. Hein. Je prends un exemple concret, mais bon... Voilà, alors, du coup, non à l'acédie égoïste, je vais développer un peu sur l'acédie, mais vous savez peut-être beaucoup plus de choses que moi sur l'acédie. Vous savez ce que c'est que l'acédie ? Non ? Donc, je peux en parler, alors. Heureusement, sinon, je ne savais plus quoi dire. Alors, l'acédie. Alors, ça se rapproche, quelquefois, on le rapproche de la paresse. Mais ce n'est pas exactement la même chose que la paresse. Exactement. L'acédie, c'est la perte du goût de Dieu. Et du coup, ça nous paralyse. On a plus de goût et c'est exactement ça. On n'a plus envie. Voilà. Du coup, on n'a plus de motivation. Voilà. Alors, on se traîne. Bon, on fait les choses parce qu'il faut les faire, mais ça ne dure qu'un temps. Hein, ça. Après, une petite tentation qui nous arrive à ce moment-là. Et puis, voilà, on change de cap et... Voilà, c'est une fatigue de l'âme. Ça paralyse l'âme dans son élan vers Dieu. C'est une anorexie spirituelle. Enfin, il y a beaucoup d'expressions pour en parler. Alors, je vous donne quelques caractéristiques de l'acédique. L'acédique, donc la personne qui a de l'acédie. Alors, souvent, on dit que c'est souvent la crise du milieu de vie ou voilà, au milieu de la vie. Ça peut arriver à tout moment, hein, l'acédie, mais il y a des moments où on est peut-être plus vulnérable à l'acédie. D'ailleurs, le démon le sait bien. Un jeune prêtre, il va plutôt le pousser à s'épuiser. Et puis, une fois qu'il sera épuisé, alors il commencera à insinuer un petit doute. Finalement, t'as remué du vent et puis tu vois... Et à ce moment-là, voilà, c'est là que... Parce qu'il sait bien qu'au début, s'il prend de front, il lui met ce doute au début, bien sûr, le jeune prêtre, il dira « Mais non, c'est stupide. » Mais quand il se sera un peu épuisé, peut-être avec un peu d'activisme et tout ça, ben à ce moment-là, il sera peut-être beaucoup plus facile pour cette tentation. Alors, l'acédie, ce n'est pas ne rien faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Comme la paresse, ce n'est pas ne rien faire. C'est pas faire ce qu'on devrait faire au moment où on doit le faire. Donc, il y a des gens qui font des tas de choses, mais qui sont peut-être des paresseux. Ils ne font pas leur devoir d'État pendant ce temps-là. Ils font peut-être des tas de choses, ils s'activent. Mais la paresse, justement, c'est pas faire ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Et Dieu passant par ça s'inscrit concrètement dans notre devoir d'État, de mère de famille, d'épouse, de femme. Voilà. Oui, le paresseux n'est pas quelqu'un qui ne fait rien, mais quelqu'un qui ne fait que ce qu'il veut. Voilà, mais la cédie, c'est un peu plus. Hein, cette perte d'élan vers Dieu, voilà, alors quelques caractéristiques donc. D'abord, c'est que l'acidique ne tient pas en place, il bouge. Alors du coup, alors ça peut se traduire de différentes manières, mais il ne faut pas l'appliquer trop littéralement parce qu'il peut y avoir d'autres raisons. Hein. Donc c'est comme quelqu'un qui regarde dans le dictionnaire des maladies et tout de suite il voit toutes les maladies, mais attention, le médecin dit non. Peut-être vous avez un symptôme, mais il faut en avoir quand même quelques-uns pour confirmer dans cette maladie. Donc, si on a un des symptômes, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans la CDI complète. Donc, il y a des gens, moi, il faut qu'ils changent souvent de travail, ou de femme, pourquoi pas, ou de paroisse, ou partir en mission, changer. Pas se coltiner avec une mission qui est dans la durée, voilà, mais voilà, un peu papillonner, etc. Ça, c'est de la CDI. Enfin, ça peut être, c'est un des éléments qui peut caractériser la CDI. C'est de pas être en mesure de faire une chose et de s'y tenir. L'impatience, ça peut être, on peut être impatient sans être acédique. L'impatience dans le sens de, voilà, je prépare mon topo pour les dames. Au bout de 5 minutes, ce n'est pas encore terminé mon travail. Alors c'est quand même, du coup, il faut que je travaille plus longtemps que ça. Ou je commence à me mettre au piano, parce que alors, je suis complètement nul, mais je ne sais même rien du tout. Mais je voudrais qu'en une semaine, je sois l'équivalent d'un grand pianiste. Ben non. Voilà, alors l'impatience, voilà, c'est... C'est pas composé avec nous, il nous faut du temps pour apprendre les choses, pour apprendre à faire des bons gâteaux. C'est pas du premier coup qu'on réussit bien, quoi. Ou pour apprendre à éduquer ses enfants, c'est normal de faire des erreurs dans l'éducation, voilà. Mais voilà, l'impatience, la dispersion, s'éparpiller, ça c'est... on fait des tas de choses. Peut-être parce qu'on a un peu peur de se poser. Alors justement, ça c'est un autre point, c'est dans la CDI, on a du mal avec l'oraison. Un temps où on est là vraiment pour Dieu, sans rien faire extérieurement, mais on n'est pas toujours branché sur ce qu'on va faire, mais on est là pour Dieu. On est plus au niveau de l'être que du faire. Alors ça, pour la CDI, c'est toujours un peu compliqué. Une certaine mollesse spirituelle. Alors c'est Pascalide qui prenait cet exemple pour la prière, par exemple. Alors au moment des fiançailles, il y a trop de choses à faire, il faut préparer le mariage, tout ça. Bon, il faut trouver un appartement, tout ça. Bon, quand on sera marié, on s'y mettra. Et quand ils sont mariés, là on n'a pas le temps, et puis avec les jeunes enfants, on est épuisé là, quand ils pleurent la nuit, tout ça. Donc quand ils seront grands, on pourra. 10 ans après, le métier c'est quand même très accaparant, mais quand je serai à la retraite, j'aurai du temps pour prier. Et puis finalement, on arrive à la fin de notre vie. Après, bon, on est mal parce qu'on a des douleurs partout, donc c'est plus le moment de prier. Donc... Alors, c'est ça, là c'est dit qu'il se trouve toujours des bonnes raisons, et puis finalement, Bon, là, il peut y avoir des bonnes raisons, mais si on se trouve toujours des excuses, on n'avance jamais. Alors, des remèdes pour la CDI, quand même. Je pense que le remède essentiel, c'est justement d'être renouvelé dans notre vie spirituelle. Donc, alors là, de reprendre un peu ce que dit le pape dans la dernière partie. Et même si l'oraison est aride, c'est quand même de continuer à faire oraison. Voilà, sachant que c'est aussi comme ça qu'on avance dans la persévérance, ou continuer un travail ou une mission, même si traverser aussi des moments un peu plus arides. Hein, c'est pas toujours le printemps, ça peut être aussi des périodes d'automne, d'hiver où il pleut, voilà, c'est plus déprimant quand même que quand il y a du beau soleil. Mais il faut passer certaines saisons pour revenir au printemps et allaiter, c'est pas se réfugier dans le sommeil, hein, l'hypersomnie quelquefois, qui voilà une forme de fuite quelquefois. Habituellement, c'est pas quand on est dans ces moments de désolation, c'est pas le moment de changer de cap, hein, Saint Ignace de Loyola. Il faut pas tout remettre en question, surtout dans ces moments d'acédie. C'est de vivre dans l'instant présent, plutôt que se plonger dans le passé ou être déjà dans l'avenir. Mais non, vite ce que tu as à vivre aujourd'hui. C'est pas laisser les choses décider à notre place, mais prendre des décisions. Voilà. Oh, c'est quelques petites choses que je dis rapidement, mais. Oui.
De soi, tout ce qui est positif, tout ce qu'on reçoit, et rendre grâce, et ça rétablit l'atmosphère de l'esprit.
Oui, oui. Mais tout se tient. Le point suivant, ça anticipe presque. C'est non au pessimisme stérile. Mais non, c'est une bonne transition. Mais en fait, ça se tient. C'est vrai que dans notre acédie aussi, si. On ne sait pas louer pour ce qui est beau, ce qui est bien. Si on ne sait pas fêter, comme dit le pape François, ben, peut-être on voit que ce qui va de travers et on ne sait plus voir ce qu'on a de bien. On sait voir que ce qui va mal. Alors justement, troisième tentation, c'est plus une forme de pessimisme. Donc, la deuxième, c'était l'acédie. Et tout ça, c'est dans la perspective, hein, vous gardez ça toujours dans un coin de votre tête, c'est dans la perspective d'évangéliser, d'annoncer Jésus. Et si on est dans cette apathie spirituelle qu'est l'acédie, ben, finalement, voilà, on se lèvera pas pour évangéliser. Si on est pessimiste, on ne se lèvera pas non plus pour évangéliser. Et d'ailleurs, l'évangélisation va souvent de pair avec la louange. Ça va souvent de pair. C'est peut-être les communautés qui ont renouvelé, peut-être en tout cas les méthodes d'évangélisation. C'est aussi des communautés qui sont très attachées à la louange, je pense. Alors, non au pessimisme stérile. La dernière fois, j'avais parlé des défis. Le pape qui aimait les défis, il est toujours un peu dans cette même logique de dire, mais oui, il y a des difficultés, mais si on voit que les difficultés, on n'a plus qu'à s'enterrer vivant, quoi. C'est de voir qu'au milieu des difficultés, il y a aussi une lumière. Alors, il reprenait un texte de Jean 23. Alors, c'est un texte relativement connu parce que c'était dans le discours qu'il a fait pour l'ouverture du Concile Vatican II. Alors, voilà ce qu'il disait. Alors, il prenait le Nun Majesté encore à l'époque. Donc, c'était le 11 octobre 1962. Il arrive souvent que nos oreilles soient offensées en apprenant ce que disent certains qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manque de justesse de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruine et calamité. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes comme si le monde était près de sa fin. Dans le cours actuel des événements, alors que la société humaine semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins mystérieux de la providence divine, qui, à travers la succession des temps et les travaux des hommes, la plupart du temps contre toute attente, atteignent leur fin et disposent tout avec sagesse pour le bien de l'Église, même les événements contraires. Alors ça, c'est le pape François qui continue. Une des plus sérieuses tentations qui étouffe la ferveur et l'audace est le sens de l'échec. Alors c'est un petit peu différent, mais c'est un peu dans le même sac que le pessimisme. Bon, on se donne perdu par avance. Hein, c'est comme si quelqu'un veut jouer un match, mais d'avance, il est convaincu qu'il va perdre. Bon, il n'a pas beaucoup, beaucoup de chances de gagner hein, quand il part avec cette... Alors, le sens de l'échec qui nous transforme en pessimistes mécontents et déçus au visage assombri. Personne ne peut engager une bataille si auparavant il n'espère pas pleinement la victoire. Même si c'est avec une douloureuse prise de conscience de ses propres limites, il faut avancer sans se tenir pour battu. Et se rappeler ce qu'a dit le Seigneur à saint Paul, « Ma grâce suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Le triomphe chrétien est toujours une croix, mais une croix qui en même temps est un étendard de victoire, qu'on porte avec une tendresse combative contre les assauts du mal. Le mauvais esprit de l'échec effraie de la tentation de séparer prématurément le grain de l'ivraie, produit d'un manque de confiance anxieux et égocentrique. Alors, cet optimisme, ce n'est pas simplement un optimisme humain, hein, vous sentez quand il parle de la croix, cet optimisme est fondé sur l'espérance. Une citation de Jean-Paul II. Sur un horizon souvent marqué par le découragement, par le pessimisme, par des choix de mort, l'inertie, la superficialité, le chrétien doit s'ouvrir à l'espérance qui jaillit de la foi. Voilà, alors, donc c'est... Nous sommes appelés à l'espérance. Alors, le pape François souvent a à cœur de distinguer l'optimisme de l'espérance. L'espérance n'est pas de l'optimisme, ça il disait ça le 29 octobre 2013. Ce n'est pas la capacité de regarder les choses avec un esprit positif et d'aller de l'avant. Non, ça c'est de l'optimisme, ce n'est pas de l'espérance. Et il parle de l'espérance qui est une encre fixée à la rive de l'au-delà. Alors cette image de l'encre, elle est dans l'Épître aux Hébreux. Alors je crois que c'est le chapitre 11, mais je me trompe peut-être. Mais en tout cas, c'est une belle image. Vous vous rappelez du Saint des Saints, il y avait un rideau. Et alors l'image qui est prise c'est une encre qui est de l'autre côté du rideau, c'était le lieu de la présence de Dieu. Et c'est ça qui me permet de tenir, et voilà. Alors de voir que ce n'est pas un optimisme béat, et puis un optimisme simplement parce que j'ai un caractère comme ça. C'est parce que je crois que le monde est dans la main de Dieu, et que Dieu ne nous abandonne pas. Alors, le pape s'adressait à des jeunes, par exemple, en disant... Alors, il commentait un évangile, c'était quand Jésus dit à Pierre, « Avance au large et jette les filets. » Alors, il a des... Je vous lis, il a des expressions... Il y a la menace de la lamentation, de la résignation. Celles-là, nous les laissons à ceux qui suivent la déesse Lamentation. Et vous, est-ce que vous suivez la déesse Lamentation? Vous vous lamentez continuellement, comme dans une veillée funèbre? Non, un jeune ne peut pas faire cela. La déesse Lamentation est une tromperie, elle te fait prendre la mauvaise route. Quand tout semble immobile et stagnant, quand les problèmes personnels nous inquiètent, quand les malaises sociaux ne trouvent pas les réponses dues, ce n'est pas bon de se donner pour vaincu. Le chemin est Jésus. Le faire monter dans notre barque et avancer au large avec lui. Il est Seigneur. Il change la perspective de la vie. La foi en Jésus conduit à une espérance qui va au-delà, à une certitude fondée non seulement sur nos qualités et nos dons, mais sur la parole de Dieu. Avancer au large, sortez de vous-même, sortir de notre petit monde et nous ouvrir à Dieu pour nous ouvrir toujours plus aux frères. Voilà, alors, donc, il y a tout ce paragraphe sur le pessimisme stérile. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour ce matin. Il y aura encore quatre points.